Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. 2,5 millions de personnes supplémentaires éligibles au vaccin AstraZeneca qui ne sera plus réservé aux moins de 65 ans. Et les pharmaciens pourront administrer tous les vaccins. Les autorités accélèrent la campagne. Condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption. Marine Le Pen critique. Elle ne veut pas que les juges fassent la primaire de la présidentielle. Nous l'entendrons et nous verrons comment expliquer une sentence aussi sévère. La réforme de l'assurance chômage entrera partiellement en vigueur au 1er juillet. C'est ce que vient d'annoncer la ministre Elisabeth Borne aux syndicats. Tous en colère, en désaccord contre le nouveau mode de calcul. Une première plainte déposée devant la justice française visant les attaques chimiques du régime syrien. Plainte pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et puis Serge Gainsbourg, 30e anniversaire de sa disparition, journée hommage sur Europe 1. Invité d'Europe Midi, l'un de ses biographes, Bertrand Dical, auteur d'un tout Gainsbourg, qui s'interroge notamment sur l'insuccès ou l'indifférence que l'artiste a longtemps connu de son vivant.
Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors.
30 ans après sa disparition, Gainsbourg Forever sur Europe 1.
Patrick Cohen.
Dernière nouvelle de la vaccination avec une série d'informations et d'annonces qui devraient accélérer la campagne. C'est en tout cas le pari des autorités. Victor Delande, c'est d'abord ce matin la Haute Autorité de Santé qui veut étendre le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Avec comorbidité.
Oui, il n'y a plus de trou dans la raquette. Fini la catégorie d'âge 65-74 ans en attente de leur injection. Après l'annonce d'Olivier Véran hier soir, la Haute Autorité de Santé a effectivement recommandé ce matin d'étendre l'autorisation du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Cet élargissement est motivé par de nouvelles données venant d'une étude menée en Écosse avec des pourcentages d'efficacité extrêmement encourageants de ce sérum pour éviter notamment l'hospitalisation chez les sujets plus âgés. Mais dans un premier temps, ce sont donc les personnes de 65 à 74 ans avec des facteurs de risque, comme les personnes obèses, les insuffisants respiratoires, les diabétiques qui seront prioritaires. La présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, a justifié ce matin cette décision.
L'enjeu aujourd'hui, il reste d'accélérer la vaccination, de faire le plus vite possible et en ciblant toujours en priorité les personnes qui ont des facteurs de risque de faire des formes graves. Parce que les buts à court terme restent les mêmes. Diminuer la mortalité et la pression sur le système de santé.
Autre recommandation annoncée par la Haute Autorité de Santé, tous les vaccins contre le Covid-19 doivent pouvoir être administrés désormais par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins. Il faut maintenant attendre un décret pour que ces professions puissent concrètement vacciner dans leur officine. Mais le but de cet avis est très clair, plus de soignants pour piquer afin d'accélérer la campagne de vaccination. Je rappelle qu'à ce jour, près de 3 millions de Français ont reçu une injection et la moitié d'entre eux a pu bénéficier des deux doses. Et selon les projections du gouvernement, avec ces nouvelles données, 6 millions de Français ont reçu au moins une dose à la fin du mois de mars.
Victor Delande, politique et justice avec l'onde de choc Sarkozy, l'ancien président condamné à 1 an de prison ferme pour corruption. Il n'y a pas que des LR pour dénoncer une justice dévoyée ou détournée à des fins politiques. Il y a aussi Marine Le Pen, qui est par ailleurs mise en examen pour des emplois présumés fictifs au Parlement européen. La présidente du Rassemblement national qui souhaite la suppression du parquet financier. Invité d'Europe 1 ce matin.
On voit bien que dans un certain nombre d'affaires, les miennes, j'en suis témoin, celle de M. Fillon, la justice ne s'est pas comportée de la même manière avec les candidats qu'avec n'importe quel quidam. Et a cherché, clairement, à influer directement sur l'élection. Or, moi, je suis désolé de vous dire que je ne souhaite pas que les magistrats fassent la primaire de la présidentielle.
Mais alors, comment y remédier ?
Je n'ai pas envie que les magistrats déterminent qui seront mes adversaires
alors,
à la présidentielle.
Alors, comment y remédier ?
Et je vais même plus loin, je vais vous dire. Je pense que Nicolas Sarkozy, compte tenu de la jurisprudence Fillon, si Nicolas Sarkozy souhaite être candidat à la présidentielle, eh bien, il doit l'être. Malgré la condamnation, dont je rappelle qu'elle n'est pas définitive, le peuple est souverain. C'est lui qui décide. Ce ne sont pas les magistrats. Sinon, c'est le gouvernement des juges.
Marine Le Pen avec Sonia Mabrouk. Sur le fond, les défenseurs et les soutiens politiques de Nicolas Sarkozy continuent d'affirmer qu'il a été condamné sur la base d'un dossier vide, que le prétendu pacte de corruption n'a eu aucun effet, ni sur la justice, ni sur le haut magistrat qui devait l'influer, et que le tribunal se fonde, je cite, sur un faisceau d'indices graves et concordants. Guillaume Bié, comment ce dossier-là a pu justifier une condamnation et une sentence aussi sévère.
Déjà, dire que le dossier est vide, un désert de preuves, avait plaidé l'avocate de Nicolas Sarkozy, c'est le point de vue de la défense, ce n'est pas celui des magistrats qui s'appuient principalement sur ces fameuses écoutes, le cœur du dossier, des conversations nombreuses qui ne violent pas le secret des échanges entre avocats et clients, ces écoutes sont valides, et surtout ces conversations caractérisent le délit, estiment les juges, avec un point précis qu'il faut bien comprendre, peu importe si Gilbert Azibert n'a pas influé sur la décision de la Cour de cassation, et peu importe s'il n'y a pas eu de contrepartie, si Nicolas Sarkozy n'a finalement pas plaidé sa cause pour un poste à Monaco, le code pénal et le jugement d'hier sont clairs, le simple fait d'avoir proposé une contrepartie, ce fameux coup de pouce reconnu à l'audience par Nicolas Sarkozy, ça, c'est déjà un délit. En résumé, les juges parlent effectivement d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui prouvent, selon eux, l'existence d'un pacte de corruption qualifié de particulièrement grave en raison de la profession, de l'expérience des prévenus. Ils avaient parfaitement conscience du caractère frauduleux de ces agissements, écrivent les magistrats. D'où ces condamnations fermes. La peine maximale, c'est 10 ans. Le PNF avait requis 4 ans, dont 2 fermes. Le tribunal a prononcé 3 ans, dont 1 ferme. Bien évidemment, toutes ces condamnations sont annulées puisque les prévenus font appel. Il y aura un nouveau procès.
Guillaume Bier, merci. Pour les abus sexuels dans l'Église, le président de la commission indépendante, l'ancien dirigeant du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, présentait ce matin un point d'étape qui est allé bien au-delà des scandales étouffés par la hiérarchie catholique à propos de la pédocriminalité. En général, dans la société, le haut fonctionnaire a parlé de crime de masse, Virginie Riva.
Oui, crime de masse, atteinte à l'humanité, des mots très forts que Jean-Marc Sauvé emploie pour qualifier l'ensemble des abus sexuels sur mineurs commis dans la société, c'est-à-dire à l'école, dans la famille notamment, car pour comprendre la responsabilité de l'Église, il a besoin, dit-il, de comprendre la prévalence d'abus au sein de la société tout entière. C'est d'ailleurs une enquête en cours qu'il a commandée à l'INSERM. À ce stade, 3000 personnes ont témoigné à la commission. Il y en a sans doute beaucoup plus, 10 000 victimes peut-être, puisque beaucoup sont aujourd'hui décédées, d'autres ne souhaitent pas s'exprimer. La majorité des crimes commis par les clercs et religieux remontent d'ailleurs aux années 50 et 60. On en a appris plus ce matin sur les lieux de ces crimes. La majorité se sont produits en établissements scolaires, puis au catéchisme, un quart en mouvement de jeunesse ou colonie de vacances. Quelques abus ont aussi été commis au domicile même des victimes âgées, dans la plus grande majorité des cas, de 6 à 15 ans. Jean-Marc Sauvé qui laisse surtout très clairement entendre la responsabilité collective de l'institution au-delà des agissements individuels de prêtres et de religieux sur les silences et les déplacements. Responsabilité qui ne pourra se résoudre, a-t-il dit, à verser une simple indemnité financière. Il rendra ses préconisations fin septembre, préconisations qui seront co-construites avec les victimes, a-t-il précisé.
Et Virginie Riva, merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, le nouveau mode de calcul de l'assurance chômage va bel et bien entrer en vigueur dès le 1er juillet.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La pandémie a retardé deux fois son application, mais la réforme de l'assurance chômage sera bien mise en œuvre. C'est la volonté du gouvernement, rappelée ce matin par la ministre Elisabeth Borne, à des partenaires sociaux tous hostiles à ces changements, Olivier Samin.
Oui, la réforme entrera bien en vigueur le 1er juillet. En tout cas, sa mesure phare, celle qui modifie le calcul du montant des allocations. Mesure très critiquée, puisqu'elle aboutit à une baisse de l'indemnisation mensuelle des personnes qui alternent des contrats courts avec des périodes de chômage. Cette mesure sera donc bien mise en œuvre dès juillet, mais avec un plancher pour éviter des baisses trop fortes d'indemnisation. Deux autres mesures qui étaient prévues dans la version d'origine de la réforme seront conditionnées à un retour à meilleure fortune, en clair, à une amélioration du marché du travail, soit au plus tôt le 1er octobre prochain. D'abord, l'augmentation du nombre de mois qu'il faut avoir travaillé avant la perte de son emploi pour pouvoir être indemnisé. Et puis, deuxième mesure, la dégressivité des allocations pour les gros salaires. Enfin, s'agissant du bonus-malus frappant les entreprises qui ont fortement recours aux contrats courts, il sera effectif à compter de l'été 2022 dans des secteurs bien définis, et ça après une année d'observation des pratiques dans les secteurs en question.
Olivier Samin, aux Assises de Paris, début du procès en appel des agresseurs de policiers de Viry-Châtillon. C'était en 2016, une voiture de police incendiée par des jets de cocktails Molotov. 4 blessés, des policiers qui avaient échappé aux flammes à la mort. En première instance, 5 des 13 accusés avaient été relaxés, les autres condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison pour tentative de meurtre. en deçà des réquisitions, d'où l'appel du parquet général. Ce deuxième procès qui se déroule à huis clos, parce qu'une partie des accusés sont mineurs. Ce deuxième procès, l'une des victimes, Jenny, une policière brûlée aux mains et au visage, le vit comme une deuxième épreuve, son avocat maître Thibaut de Montbrial.
On a eu vraiment une photo lors du procès en première instance de ce que c'est que le poids du silence, l'omerta, la force des bandes, la pesanteur de la violence au quotidien dans les quartiers. Le temps a passé et peut-être qu'entre les accusés, il peut y avoir des rapports qui fissurent cette omerta. L'attente impossible, c'est de savoir pourquoi des jeunes, dont certains étaient mineurs, ont été brûlés des policiers dans une voiture, les ont bloqués alors qu'ils étaient en train de brûler à l'intérieur, les ont ensuite rebrûlés, puisqu'il y a un policier qui a pris un cocktail Molotov alors qu'il brûlait déjà et qu'il sortait de la voiture, ensuite les ont caillassés. Qu'est-ce qui peut justifier que des jeunes d'un quartier viennent s'en prendre ainsi aux policiers? Voilà, ce sont des questions obsédantes au quotidien.
Propos recueillis par Marion Dubreuil. L'horreur syrienne devant la justice française, c'est une première. Une plainte vient d'être déposée au tribunal de grande instance de Paris pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Nicolas Feldman.
Oui, et tout le monde se souvient de ces images. Des hommes, des femmes, des enfants suffoquants. Nous sommes à l'été 2013 dans la banlieue de Damas et le régime syrien est accusé de bombardement au gaz sarin contre sa population, des attaques qu'il a toujours niées. Mais aujourd'hui, si une plainte peut être déposée en France, c'est parce que des activistes présentent des preuves solides à la justice. Parmi eux, Mazen Darwish, il est avocat et c'est le directeur du Centre syrien des médias et de la liberté d'expression.
Parmi les éléments qu'on a fournis au juge, il y a beaucoup de photos et de vidéos. Là, par exemple, sur cette vidéo, vous avez des cadavres de femmes et d'enfants. Et on voit clairement les effets des agents chimiques sur les parties respiratoires, le nez, la bouche. Nous avons aussi collecté des témoignages de victimes, reconstitué la chaîne de commandement pour identifier les responsables de ces attaques.
Alors impossible pour ces activistes de juger les coupables en Syrie, c'est donc pour cela qu'ils se tournent aujourd'hui vers la justice française, compétente pour enquêter dans des cas très précis sur des crimes commis à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la compétence extraterritoriale. C'est selon ce principe qu'a pu aussi être déposée une plainte similaire en Allemagne à l'automne dernier.
Merci à vous Nicolas Feldman. C'est normalement le temps de la météo, mais Anissa Haddadi reste injoignable pour l'instant. Elle me charge de vous dire que le ciel est légèrement plus néageux à l'ouest. Il est plus légèrement néageux à l'ouest. Anissa, vous êtes là?
Mais oui, je suis là, Patrick.
Et donc?
Oui. Depuis ce matin, nous avons une légère dépression qui touche la pointe bretonne avec un ciel plus nuageux, avec quelques petites gouttes sur le Finistère en fin de journée. Et puis après la dissipation des brouillards sur la moitié nord, eh bien c'est le soleil qui s'impose partout. Bonne nouvelle cet après-midi, sauf sur le Languedoc, où nous avons toujours ce vent marin qui souffle jusqu'à 90 km/h et qui apporte pas mal de nuages. Les températures, elles sont douces cet après-midi avec 12 degrés à Cherbourg, 15 à Brest et Belfort, 17 à Paris, 18 degrés à Marseille et 19 la maximale pour Clermont-Ferrand.
Merci à vous Anissa.